Peut-on vraiment être heureux au travail?
Absolument, et de plus en plus.
Qu'est-ce qui pourrait créer plus de diversité dans l'entreprise?
De diversité, des collaborateurs qui viennent d'horizons différents, et puis créer des événements de rupture un peu au sein de son équipe.
Peut-on vraiment être heureux au travail?
Ouais, je pense qu'on peut vraiment être heureux au travail. En tout cas, moi, en tant que dirigeant, c'est ce que j'essaye de faire au maximum pour mes salariés, qu'ils grandissent avec l'entreprise, mais d'une manière épanouie et saine pour eux.
Qu'est-ce qui pourrait créer plus de diversité dans l'entreprise?
L'ouverture des dirigeants, mais c'est en train de se passer, parce qu'ils n'ont pas le moyen de faire autrement.
Peut-on être vraiment heureux au travail?
Oui, on peut l'être, oui, tout à fait. Le travail est un chemin possible d'accomplissement de soi, même un lieu privilégié de l'accomplissement de soi. Donc on peut avoir ce regard sur le travail.
Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM et aujourd'hui nous recevons Laurence Vanet et on va parler de la richesse de la diversité. Laurence Vanet, elle a érigé la fonction de RH au rang d'enjeu stratégique. Elle a été à la tête du service public fédéral Sécurité sociale belge pendant plusieurs années et elle a même été sacrée DRH belge de l'année en 2012. Elle est l'une des premières à revendiquer le statut de Chief Happiness Officer. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Comment on devient experte du bonheur au travail?
En faisant un bon gros burn-out et en bossant à la sécurité sociale. Non, sans rire. Experte en bonheur au travail, je pense que c'est finalement toute l'expérience ressources humaines qui s'est consolidée, que j'avais pu glaner jusque-là. C'est vrai que le burn-out que j'ai traversé m'a fait me faire cette promesse de ne plus jamais être malheureuse au travail. Et quand on se fait cette promesse et qu'on est directeur des richesses humaines, si on se permet à soi d'être heureux au travail, ben c'est clair que le métier devient créer les conditions pour que chacun puisse cultiver son bonheur au travail. 4 ans de sécu, une assez belle réussite avec un travail d'équipe formidable. Et puis, ben oui, j'ai eu une assez grosse exposition et donc voilà, j'ai continué à cultiver le sujet.
Et alors, en 2013, tu écris « Happy RH, le bonheur au travail ». Qu'est-ce que ça veut dire, être heureux au travail?
Alors, être heureux au travail, finalement, c'est faire bien ce que j'aime faire et qui est utile à l'organisation. Quand on a la réponse à ces trois questions-là, on sait qu'on est en capacité d'agir sur son bonheur au travail. Et si on décompose le bonheur au travail et qu'on se dit, mais finalement, en termes d'organisation, sur quoi puis-je agir? Eh bien, on va agir non seulement sur le fait de donner de la liberté aux collaborateurs et leur demander de la responsabilité. Et on va créer tout un système autour de 6 piliers. Et ces 6 piliers sont finalement l'autonomie qu'on va pouvoir donner, les connexions qu'on va créer et donc tout ce qui va renforcer le collectif, le collégial, l'esprit d'équipe, la communication, la collaboration, tout ce qui va tourner autour du fait que vous allez pouvoir mettre en fait vos compétences, vos connaissances, votre expertise, votre savoir-faire, votre savoir-être au bénéfice de l'organisation en créant de la valeur ajoutée, mais en développant votre potentiel. Le 4e pilier est celui des résultats, le fait de pouvoir voir que ce que vous faites au quotidien a un résultat positif, un impact qui peut parfois dépasser soi-même, son équipe, l'organisation, et va se traduire soit en quantité de travail, en qualité de travail ou en attitude avec laquelle on fait le travail, et la combinaison des trois est essentielle. On va aussi s'attacher à la mission, le sens de ce que l'on fait. Et de se dire finalement, je comprends pourquoi je me lève le matin et je suis fière le soir quand je rentre à la maison. Et le dernier pilier sur lequel on va agir et qui est essentiel est celui de la reconnaissance, celui du retour que l'on peut avoir de ses clients, de ses collègues, de son boss, mais aussi de son cercle social et familial et qui va construire la confiance en soi parce que sans confiance en soi, ben c'est très compliqué d'être heureux.
Et alors, tu défends l'idée que la richesse d'une entreprise, eh bien, elle tient dans la diversité des gens qui la composent. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?
Si on était tous les mêmes, si on possédait tous la même compétence, la même histoire, le même trajet, ce serait difficile d'être opérationnel et répondre à toutes ces sollicitations différentes que l'entreprise a besoin d'assumer pour répondre aux besoins de ses clients, de ses citoyens, des usagers, des patients, des voyageurs. Donc c'est clair qu'on a besoin d'une grande diversité au sein de l'organisation, mais sans pour autant la normer. Je pense qu'on commence à tuer le système à partir du moment où on nous dit, par exemple, il faut autant de pourcents de personnes avec un handicap. Il faut autant de femmes cadres au comité de direction. La diversité doit venir finalement dans une espèce d'éclosion et d'épanouissement de chacun par rapport à son trajet de vie, ce qu'il ressent et de la façon dont il va contribuer au projet de l'entreprise et au projet collégial tout en s'y retrouvant. Et c'est là ce que se crée cette richesse en définitive. C'est en ne normant pas, en institutionnant pas, mais en mettant le cadre assez large, assez ouvert, que pour que chacun puisse s'exprimer.
Et la diversité, c'est pas seulement une affaire d'égalité, c'est aussi une affaire de business, non ?
Ah oui, c'est clair qu'il y a un business sur le côté, des consultants, il y a des formations, il y a des conférences, il y a plein de choses qui se font et ça dépasse bien sûr le cadre des organisations. On parle aussi de diversité dans la société, on parle d'inclusion, on parle, toute la problématique des migrants a quand même chamboulé beaucoup de choses. On voit des personnes qui ont des compétences extraordinaires, qui sont multidiplômées et qui sont aujourd'hui en train de faire la manche dans la rue, tout simplement parce qu'elles sont sorties du trajet normal de leur vie. Et donc, le business que l'on va pouvoir retrouver autour de la diversité, certes, il peut avoir une raison d'exister. Je pense qu'il en faut effectivement pour tous. Et il y a des personnes qui se réalisent dans ce business de la diversité. Mais il est important pour les organisations de continuer à comprendre que c'est en laissant le jeu le plus ouvert possible et le moins normé possible qu'elles vont justement arriver à trouver toute la richesse de la diversité, de leur politique de diversité.
Alors, Lean Management, PPR, Six Sigma, gestion de process, tous ces trucs-là, tu y crois plus vraiment, toi ? Alors, en quelle méthode de management tu crois encore vraiment ?
Alors, c'est clair que toutes les méthodes d'optimisation à travers lesquelles on est passé ces 30, voire 40 dernières années ont épuisé les ressources de l'organisation, que ce soit les ressources de créativité parce que tout a été normé, ou que ce soit cet horrible mot de ressources humaines parce qu'on a oublié justement que c'était des hommes et des femmes, des êtres humains qui étaient derrière les process, les méthodologies, etc. Donc aujourd'hui, ce à quoi je crois, c'est un véritable pivot en matière de nouveaux paradigmes managériaux. C'est d'essayer de se départir peut-être de réflexe que l'on a construit, le réflexe de la prudence, le réflexe de l'excellence, le réflexe du silo et de l'expertise, d'aller très très loin finalement dans la maîtrise de son métier, pour pouvoir peut-être cultiver un peu plus d'audace, un peu plus de collégialité, un peu plus de transversalité, un peu plus d'expérience, et donc de prendre une autre posture mentale, physique et dans les actes pour les managers. D'arrêter d'infantiliser les collaborateurs, ils sont adultes, ils gèrent un budget, une famille, des enfants, des responsabilités en dehors du travail, donc ils peuvent très bien l'assumer aussi au centre, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, dans l'organisation. Et en définitive, c'est de co-créer finalement, d'aller demander à ceux qui ont envie de participer au projet d'entreprise le comment on va pouvoir le faire. Ce qui est essentiel, c'est que le comité de direction, dans un premier temps en tout cas, reste en charge de bien définir la vision, de bien comprendre que les valeurs, ce ne sont pas des posters sur les murs, mais c'est ce qui va créer la confiance entre nous parce qu'on va partager en fait un référentiel commun, d'avoir des indicateurs qui sont pérennes et une gouvernance qui est adaptée. Et ça, c'est essentiel et c'est ce qui manque le plus aujourd'hui aux organisations, et d'agir avec son écosystème, client, fournisseur, prestataire, l'écosystème social dans lequel on se trouve pour pouvoir créer un impact qui est beaucoup plus grand.
Laurence, merci beaucoup pour cet échange. Comme tu le sais, l'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quel conseil, toi, tu peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent ?
D'aller aux rencontres APM, d'échanger, de partager, de ne pas avoir peur de poser leurs difficultés sur la table parce que justement, ils vont trouver des pistes de solutions qui sont parfois évidentes, mais quand on est né dans le guidon, on ne les voit plus. Et de pouvoir finalement capitaliser sur cette envie de partager, de créer un monde meilleur qui est finalement une petite étincelle qu'on retrouve dans chacun des membres de l'APM.
Merci beaucoup.
Merci à
vous. Merci Laurence.
Est-ce que vous pensez que l'APM, ça vous aide à vous transformer ?
Oui, clairement. Oui, clairement. L'APM, ça permet d'apporter... Il y a des questions qui vous taraudent et en fait, une bonne session APM, ça peut vous remettre les idées en place ou ça vous donne des pistes pour avancer.
Pas que, c'est multifactoriel.
Oui, évidemment. Comme tous les lieux où on apprend.
Oui, à la fois par les experts et le partage en amitié, en confiance avec les autres membres qui sont tous dirigeants et entrepreneurs.
Ouais, ça ouvre des réflexions et du coup, ça permet de s'alimenter au quotidien pour se transformer et essayer de devenir un peu meilleur.